Alors ça, c'est une question qui revient quand même fréquemment.
J'ai un avis extrêmement subjectif.
On va partir aussi de la forêt pour aller à l'écureuil.
Moi, je préfère partir d'une question.
Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
C'est par une froide matinée de décembre que je me suis rendue rue Saint-Guillaume, dans les locaux de Sciences Po Paris, pour interviewer David Colomb. David Colomb est enseignant-chercheur en histoire de la propagande. Il travaille notamment sur la guerre de l'information, la manipulation de masse, des sujets qui, par nature, résistent à la certitude. J'avais envie de l'interviewer précisément parce que ces questions m'échappent et que ses travaux font autorité. Mais je dois être honnête avec vous, cet entretien ne m'a pas apaisée. Il m'a au contraire laissé dans un inconfort que je n'ai toujours pas résolu. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un défaut. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur Bruit, un podcast consacré à l'étude de la manipulation de l'information pour un cinquième et dernier épisode de la série spéciale réalisée en collaboration avec le Cercle Pégase de Soprasteria.
Je suis historien, c'est-à-dire que mon travail consiste à établir les faits sur la base du regard que les acteurs portent sur leur propre action. Et en l'occurrence, à l'échelle stratégique, l'expression de guerre de l'information est employée à la fois dans la doctrine militaire russe et dans la doctrine militaire américaine depuis plusieurs décennies. Les Russes ont deux formules pour désigner la guerre de l'information, soit confrontation informationnelle, soit guerre informationnelle stricto sensu. Dans tous les cas, il s'agit du recours à l'information comme à une arme, afin de soumettre un adversaire sans recourir aux armes traditionnelles. La différence avec la propagande est que toute propagande ne repose pas sur une dimension guerrière. La propagande désigne le recours à des stratégies ou des techniques de communication de masse afin d'agir sur les conduites des individus, leurs comportements, leurs attitudes. Une campagne de publicité relève de la propagande. Une campagne pour mobiliser des gens en faveur de dons pour la lutte contre le cancer relève de la propagande, mais ce ne sont pas pour autant des éléments de la guerre de l'information. Jacques Ellul, dans son livre Séminal Propagande en 1962, distinguait, comme d'autres auteurs avant lui, Jean-Marie Donnac, la propagande blanche, c'est-à-dire transparente et pleinement assumée, celle qui relève par exemple du soft power diplomatique, la propagande grise, qui peut dissimuler son origine ou ses intentions malveillantes, et la propagande noire, qui est menée dans un cadre qui n'est pas un cadre transparent, qui est celui généralement de services de renseignement, qui dissimule à la fois son origine, ses moyens et les buts recherchés. En matière de propagande, pour ma part, je m'attache plus volontiers à la notion de manipulation de l'information, qui permet de rappeler cette chose importante, qui est qu'on peut chercher à influencer les conduites de quelqu'un à travers le recours à la désinformation, c'est-à-dire des informations que l'on sait fausses, et ce dans le but d'acquérir un objectif stratégique ou un gain financier, mais on peut également recourir à la mésinformation, qui est le fait d'encourager autrui à diffuser, propager une information qu'il ne sait pas nécessairement fausse, et sans qu'il ait nécessairement d'intention de nuire, et enfin la malinformation qui consiste à diffuser une information parfaitement authentique, mais à la sortir de son contexte dans le but de manipuler les perceptions et par conséquent d'obtenir un objectif stratégique. La notion de manipulation de l'information recouvre une série de réalités différentes qui permettent d'avoir une approche graduée d'un phénomène qui, au final, est un phénomène extraordinairement vaste. En tout cas, au-delà de la complexité des définitions, la propriété de toute campagne de manipulation de l'information est d'agir sur les perceptions pour provoquer une action. Et cette action peut être une action positive ou une action négative, c'est-à-dire refuge dans l'abstention, un refus d'agir, une prostration, une sidération. Quels que soient les objectifs poursuivis, ils relèvent dans la perspective qui est celle de mon travail historique, d'une démarche délibérée, planifiée, organisée, inscrite dans un contexte qui est un contexte historique ou géopolitique ou économique précis afin d'obtenir des avantages qui sont clairement déterminés.
Après cette longue introduction sur le vocabulaire et la description de ce vaste champ, nous revenons sur la question de la guerre informationnelle.
Il a toujours été fait recours à l'information comme à une arme ou en appui d'opérations militaires. Ce sont les opérations d'information, ce sont les opérations de guerre psychologique, d'intoxication, de déception. C'est aussi ancien que la guerre. Ce qui est nouveau aujourd'hui à l'ère numérique, c'est à la fois l'échelle de ces actions et la capacité qu'ont des acteurs étatiques de transcender des frontières jusque-là difficilement franchissables. Il était très difficile d'agir simultanément sur les esprits de milliards d'individus avant l'avènement du numérique, de la télévision par satellite, de l'avènement d'Internet, des smartphones, des médias sociaux. C'est devenu aujourd'hui extraordinairement facile, de sorte que des acteurs étatiques malveillants, les acteurs étatiques autoritaires, ont la faculté d'exporter l'entropie au-delà de leurs frontières pour semer le chaos dans les sociétés démocratiques, en même temps qu'ils s'emploient à l'intérieur de leurs frontières à contrôler étroitement l'information. C'est cela fondamentalement la dynamique de la guerre de l'information. C'est une guerre géopolitique qui oppose des régimes autoritaires qui ne veulent pas mourir et considèrent que la liberté d'informer, que les valeurs occidentales, que la domination occidentale sur l'information est une menace existentielle pour eux en tant que régime politique, et des régimes démocratiques qui, ouverts par définition, se trouvent déstabilisés par la capacité qu'ont des acteurs malveillants d'influencer à grande échelle les esprits de leur population.
Revenons rapidement sur cette phrase « exporter l'entropie au-delà des frontières pour semer le chaos », qui signifie simplement que, au lieu d'attaquer un pays frontalement, on va déstabiliser celui-ci de l'intérieur, y semer la confusion, la méfiance, etc., paralyser le débat, amplifier les fractures sociales. Il est, de fait, très difficile de distinguer une déstabilisation orchestrée de l'extérieur d'une société qui se divise toute seule. Cette distinction implique différents éléments, dont le premier est de déterminer le potentiel impact de cette entropie. Je pose alors la question de l'impact de Doppelgänger, une des opérations informationnelles russes les plus documentées depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, fin février 2022.
Premier point essentiel, c'est la question de la mesure d'impact. Appliquer des métriques d'impression, de nombre de vues, à cette question de l'impact, c'est ne pas voir l'essentiel. Une publication qui ne produit que 24 impressions peut avoir un impact si dans ces 24 impressions, il y a un journaliste qui prend cette publication au sérieux et la diffuse à une heure de grande écoute. Il m'arrive régulièrement de publier des tweets qui n'ont jamais plus de 2000 impressions, mais qui touchent 2 millions de personnes parce que le lendemain, un chroniqueur de France Inter, par exemple, en fait sa chronique. Ensuite, vous parlez de Doppelgänger, l'essentiel de l'activité de Doppelgänger est invisible à nos yeux parce qu'elle passe par les publicités ciblées sur les plateformes comme Meta, bien documentées par AI Forensics, activité qui conduit à acheminer directement par un compte jetable à utilisation unique ces publications à l'esprit des gens. Et dernière chose, il y a une coordination assez poussée, même si elle n'est pas toujours structurée, dans les opérations du Kremlin. C'est-à-dire que les acteurs ont chacun leur autonomie opérationnelle, mais ils obéissent à des mêmes objectifs stratégiques qui se traduisent par des mêmes récits. Et la conjonction de ces opérations produit des effets. C'est ce que les Russes appellent la combinatia. Et pour mesurer l'impact des opérations, il ne faut pas se pencher sur un mode opératoire particulier, une opération particulière, un faux récit particulier. Il faut se placer à l'échelle qui est la leur, c'est-à-dire l'échelle stratégique de la combinatia, celle qui voit les opérations produire les effets recherchés, à savoir, concrètement, depuis février 2022, l'affaiblissement du soutien de l'opinion publique à l'Ukraine et aux Ukrainiens, la prévalence dans l'opinion publique d'autres sujets que l'Ukraine, tels que l'anxiété sécuritaire, tels que les problématiques de terrorisme ou d'immigration, ou faire en sorte, au fond, d'obtenir des résultats mesurables, mais pas par des impressions, par les sondages d'opinion. Ça, c'est le premier point.
À ce sujet, il est intéressant de lire ou de retrouver en ligne les travaux de Paul Bouchot, docteur en audit algorithmique et en postdoctorat au CNRS, qui a étudié des corpus entiers de publicités ciblées produites par Doppelganger notamment.
D'un point de vue historique, ceux qui ont, sur la plus longue durée, eu recours à des stratégies d'influence, de manipulation de l'information et d'ingérence étrangère, ce sont les Russes depuis Catherine II. Parce qu'il s'est toujours agi pour la Russie de projeter une image de force pour masquer ses faiblesses. Il s'est toujours agi pour la Russie de mettre en place des villages Potemkin. Il s'est toujours agi pour la Russie de manipuler les perceptions de l'Occident, à la fois pour dissuader l'Occident de porter atteinte à ce que la Russie considérait et considère toujours comme ses enjeux géopolitiques majeurs, tels que l'accès aux mers chaudes via la Crimée, ou pour manipuler les débats médiatiques et politiques au service de ses propres fins. Les premières grandes campagnes de manipulation médiatique en France de la part de la Russie coïncident avec le grand emprunt russe. Lorsque des dizaines de journalistes français ont purement et simplement été corrompus. Et il s'agissait de vrais gens. Il s'agissait de véritables réseaux avec des recruteurs, une structure hiérarchique, l'acheminement de sommes d'argent assez considérables. Et aujourd'hui encore, on assiste au Royaume-Uni à la mise en place des mêmes circuits de financement au culte pour interférer le plus efficacement possible du point de vue russe dans les prochaines élections générales britanniques de mai 2026.
Entre 1888 et 1916, l'Empire russe a besoin de capitaux massifs pour financer sa modernisation. Chemin de fer, industrie, armée. Il se tourne vers des marchés financiers occidentaux et notamment vers la France, où des millions d'épargnants ordinaires achètent des titres de dette russes attirés par des rendements attractifs. Ce qui rend cet épisode particulièrement intéressant pour la question de la propagande, c'est qu'on a découvert après que le gouvernement tsariste avait organisé une vaste opération de corruption de la presse parisienne. Des millions de francs ont été distribués discrètement à des dizaines de journaux, de gauche comme de droite, pour qu'ils vantent la solidité financière de la Russie et encouragent les Français à souscrire. Ça n'a été révélé que vers 1923-1924, quand les archives russes sont publiées après la Révolution. Car entre-temps, en 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir et répudient purement et simplement la dette tsariste. Les titres, détenus par des centaines de milliers de petits porteurs français, deviennent quasiment sans valeur. La question du remboursement est vaguement évoquée pendant l'entre-deux-guerres, puis définitivement gelée avec la guerre froide. Et c'est là, au beau milieu d'une discussion sur l'influence de la Russie sur la France, à travers la corruption de la presse parisienne au début du siècle, que mon cerveau décide que c'est le bon moment de parler d'une série BBC que l'on avait d'ailleurs déjà évoquée dans l'épisode sur la prospective avec Cecil Wendling, à savoir The Undeclared War.
Ce que j'ai aimé dans cette série The Undeclared War, c'est que vous avez la meilleure description qui existe de ce que les Russes appellent le contrôle réflexif de la sphère informationnelle. Il s'agit pour les stratèges russes, les scénaristes, comme ils s'appellent, ceux qui sont chargés de concevoir et de planifier des opérations des informations, d'anticiper les erreurs de l'adversaire et de jouer sur ses biais cognitifs, ceux de l'adversaire, pour le conduire à commettre des erreurs. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette série, c'est que vous avez la mise en œuvre de ce principe fondamental de contrôle réflexif de la sphère informationnelle.
Je demande alors à David Colomb de nous définir deux types d'acteurs évoqués plus tôt dans le podcast, le spin doctor et le polytechnologue. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai totalement zappé que David Colomb a écrit un livre entier sur cette question, « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse », paru en 2021 chez Taillandier. On l'écoute.
Il y a un biais qui est que je ne lis pas le russe, je lis l'anglais. Et donc si je devais aujourd'hui refaire une édition des maîtres de la manipulation, j'y glisserais quelques-uns des polytechnologues. Les polytechnologues sont les technologues politiques. C'est une nouvelle profession qui est née en Russie après la chute de l'URSS. Il s'agissait pour les élites au pouvoir de donner l'illusion d'une démocratie dans un régime qui n'était toujours pas démocratique. Et leur fonction essentielle était en quelque sorte de manipuler l'opinion. Ils se sont inspirés pour ce faire de ce qui se faisait aux États-Unis, où le mot « spin doctor » est apparu en 1984. Ils ont recruté des consultants américains pour leur expliquer comment manipuler les médias, comment à travers les médias manipuler l'opinion publique. Prenez par exemple Doppelganger. Doppelganger, à la base, imite par typo squatting des médias qui existent. Et certains analystes ont considéré que c'était nouveau. Les polytechnologues faisaient ça en 1992. C'est-à-dire que le principe de base était de créer un faux média pour y insérer ses propres récits. Enfin, faux média authentique, d'imiter un véritable média. L'une de leurs techniques favorites consistait à prendre quelqu'un qui était homonyme du candidat de l'opposition pour disperser les voix de l'opposition. Ils ont mis au point toute une série de techniques telles que la massovka consistant à payer des manifestants pour donner l'illusion d'une opposition forte envers la personne adverse qui perdure aujourd'hui. Et donc ces polytechnologues ont connu leur heure de gloire au moment de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été élu avec le soutien de l'un d'eux, que je ne nommerai pas, qui depuis a fait 400 élections, et toujours au service du Kremlin, soit des élections internes à la Fédération de Russie, soit des élections dans l'étranger proche. Et beaucoup de ces polytechnologues se sont enrichis parce qu'ils sont à la croisée, comme toutes les agences d'influence occidentale, du monde économique et du monde politique. Leur activité économique étant encouragée par leur lien avec le Kremlin ou leur lien avec tel ou tel oligarque. De sorte que le savoir-faire de ces polytechnologues n'a cessé de se perfectionner au cours des dernières décennies. Je considère personnellement que ces polytechnologues russes sont dans le champ de l'influence aujourd'hui parmi les plus performants. L'une des raisons essentielles, c'est qu'ils ont d'abord un cadre théorique, celui de l'appropriation de la pensée d'un certain nombre d'auteurs qui ont théorisé le champ de l'influence numérique et le champ de l'influence à la croisée du numérique et du monde réel dans ce qu'ils appellent la sphère informationnelle. Ensuite, ils ont enrichi ce savoir théorique par une approche pragmatique, reposant sur l'essai-erreur permanent. Ils testent, ils échouent, ils ont le droit à l'erreur, dès lors qu'ils parviennent parfois à leur fin. Et puis enfin, ils ont su exploiter notre principale faiblesse, qui est notre appétit pour le marché russe, ce qui leur a permis de convaincre sans mal la plupart de nos meilleurs spécialistes occidentaux de ces sujets d'influence de faire un voyage à Moscou et, volontairement ou pas, de céder leur savoir-faire, leur technique de sorte qu'ils ont pu s'emparer de ces technologies. Vous savez, je vous donne juste une anecdote que j'évoque dans mon livre, qui pour moi est la plus symptomatique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Cambridge Analytica, c'était au printemps 2018. Des gens mieux informés que moi à l'époque ont pu être informés de l'existence de Cambridge Analytica en 2017, et des gens très très bien informés ont pu connaître l'existence de Cambridge Analytica pendant la campagne présidentielle américaine. Les Russes, eux, non seulement connaissaient l'existence de Cambridge Analytica dès que Cambridge Analytica a été créé, mais les services russes se sont appropriés la technologie de Cambridge Analytica dès 2015, entre 2015 et 2017. C'est-à-dire qu'avant même que nous découvrions l'existence de Cambridge Analytica, ils avaient dupliqué la technique de l'analyse prédictive de la personnalité sur la base des likes sur Facebook. Ils avaient capté la base de données des utilisateurs américains de Cambridge Analytica, et ils avaient opérationnalisé leur connaissance de ces outils au service de l'amplification de leur trolling en ligne par les activités qui étaient alors menées à Saint-Pétersbourg dans l'environnement de l'Internet Research Agency et du renseignement militaire russe. Donc ils ont une capacité assez rare à suivre quasiment en temps réel les avancées technologiques occidentales et l'instrumentalisation propagandiste qui peut en être faite, ou l'instrumentalisation à des fins d'influence. Le délai entre la mise sur le marché de ChatGPT et l'utilisation de ChatGPT pour des opérations massives d'influence de la part d'acteurs de la menace russe est un délai de quelques semaines.
Cambridge Analytica, c'est une société britannique fondée en 2013, filiale d'un grand groupe de conseil en communication qui travaille notamment pour le ministère de la Défense. Derrière elle, deux figures, Steve Bannon, futur stratège de Trump, et Robert Mercer, milliardaire conservateur de Wall Street. Leur but, faire de la politique comme on fait la guerre, mais avec des données. Le modèle, c'est le ciblage psychologique à grande échelle. On collecte des millions de profils Facebook à l'insu des utilisateurs, on les analyse, on en déduit des traits de personnalité et on injecte des messages sur mesure pour modifier des comportements électoraux, ce qu'on appelle du micro-ciblage. La société intervient alors dans des dizaines d'élections américaines dès 2014, puis dans les campagnes de Donald Trump. Et selon le témoignage d'un ancien directeur de recherche de Cambridge Analytica, Christopher Wiley, dans le camp pro-Brexit en 2016. Le scandale éclate en 2018 quand le Guardian, le New York Times et The Observer révèlent l'aspiration des données de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Cambridge Analytica fait faillite quelques mois plus tard, mais ses algorithmes et ses dirigeants, eux, continuent sous d'autres noms.
En fait, je regarde le sujet de l'autre côté de la lorgnette, c'est-à-dire du côté de ceux qui planifient ces opérations. La publicité par ciblée pour acheminer un contenu doppelganger est une goutte d'eau dans un océan d'opérations qui produisent des effets combinés. C'est ce qu'ils appellent la combinatia, c'est-à-dire le fait que la combinaison d'opérations distinctes produit davantage d'effets par cumulation de ces opérations qu'une opération seule. Le fait, par exemple, d'être exposé de manière répétitive à la même fausse information, même si cette information n'est absolument pas crédible, même si la publicité qui la soutient est ridicule, produit ce que les psychologues sociaux appellent l'effet de vérité illusoire. Et c'est une des fonctions essentielles de toutes ces opérations que de produire un effet de vérité illusoire. Quand vous répétez à longueur de journée que les dirigeants ukrainiens sont des nazis, ce qui est purement et simplement incroyable, impossible à croire, que vous le faites par amalgame systématique et répété, par le biais de tous vos canaux d'opération, que ce soit Storm 1516 qui va faire une fausse vidéo pour raconter que Zelensky aurait acheté la décapotable d'Hitler, que ce soit des opérations doppelganger de faux médias qui affirment que Madame Zelensky a acheté une Bugatti à Paris, que ce soit des publicités doppelganger pour affirmer ceci ou cela, le fait d'associer par la répétition les Ukrainiens aux nazis produit ce que l'on appelle un amalgame cognitif. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous sortir de l'esprit cette association inconsciente, qui n'est pas une association consciente, bien sûr. Si vous réfléchissez deux secondes, vous comprenez très vite que Zelensky n'est forcément pas nazi. Ce n'est pas possible. Il ne l'est manifestement pas. Mais la répétition de cela produit des effets que vous pouvez mesurer dans les sondages d'opinion. Quand vous demandez aux Français quelle est la proportion de Français qui pensent que le régime ukrainien est un régime corrompu et nazi, vous avez votre réponse, l'effet il est là. Et c'est cela, c'est cet effet-là qui est recherché. Et de même, autre cas de figure emblématique, là c'est presque une expérience randomisée contrôlée. Quand vous avez un type en Roumanie crédité d'1% des intentions de vote à 4 semaines du scrutin, qui ne fait pas de campagne, qui n'achète même pas de publicité sur Facebook, qui fait peut-être un passage à la télévision, mais qui ne fait pas de campagne d'affichage, pas de réunion publique, que tous ses contenus sont uniquement présents en ligne et font l'objet d'une manipulation coordonnée et inauthentique, reposant sur la manipulation des algorithmes de recommandation par la publication coordonnée de commentaires, et il atterrit à 23% des suffrages exprimés. Quelle est l'autre explication que celle de la manipulation des perceptions ?
Là, vous entendez mon silence. Et dans ce silence, mon doute. Parce que l'exemple roumain est incontestable. Calin Georgescu a été propulsé d'inconnu à 21% des voix au premier tour de la présidentielle roumaine grâce à une vaste opération d'influence via la manipulation de l'algorithme TikTok. Alors à ce stade, je me demande si c'est pas moi qui suis en plein biais de consensus, convaincu qu'on ne peut pas être influencé aussi facilement parce que moi, je pense ne pas l'être. Ce qui me pousserait à traiter cet exemple comme une exception, alors qu'il est peut-être justement le signe que j'ai tort. Pour autant, je me demande quand même si, dans cet exemple roumain, nous n'avons pas surtout la mise en lumière la plus frappante d'une opération de manipulation de l'information mettant en corrélation une proposition politique et une attente sociale.
Prenons la proportion d'Américains qui pensent que la Terre est plate. Ils sont 8 millions d'Américains à considérer que la Terre est plate. 23 millions à ne pas savoir si elle l'est, 23 millions à ne pas être sûrs de leur réponse. Ça fait plus de 50 millions d'Américains qui ne sont pas sûrs de la forme de la planète sur laquelle ils vivent. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est le produit, que vous vouliez le croire ou non, c'est le produit d'un système informationnel qui a été dévoyé par des acteurs malveillants qui ont un intérêt stratégique à fragiliser la capacité des gens à distinguer le vrai du faux. Il s'agit bien évidemment des acteurs du Kremlin, il s'agit également des acteurs de l'industrie productrice de gaz à effet de serre, il s'agit d'États qui ont des intérêts dans le gaz et le pétrole, il s'agit de toutes les industries à externalité négative qui recourent massivement à des agences d'influence pour diffuser massivement des théories du complot sur ces sujets. Et le but est clair, net, précis, fabriquer le doute sur la réalité factuelle. Et quand vous parvenez à fabriquer le doute sur la réalité factuelle, vous privez les gens de ce que Marc Bloch appelait ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible. Je vais vous faire une confidence, il n'y a qu'en France que je trouve des gens qui doutent de la réalité, de la gravité de la situation informationnelle aujourd'hui. Il n'y a qu'en France que je trouve des gens pour m'expliquer que non, finalement, les réseaux sociaux n'ont aucune influence. Parfois, ce sont des gens qui sont financés par l'industrie des médias sociaux, dont leurs recherches ont été subventionnées tantôt par Google, tantôt par Facebook. Corrélation, causalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y vois pour ma part une corrélation. Force est de constater que dès qu'on sort un peu de la France, et que l'on côtoie les chercheurs qui ont un pied dans le monde de l'industrie, je pense à Sina Nahal aux États-Unis qui a fait la première étude majeure sur à propos de Twitter que tout le monde cite sans l'avoir lu, qui est que le faux circule 6 fois plus vite que le vrai. Sina Nahal est à la fois professeur à MIT, consultant dans le monde numérique, et il a organisé des campagnes d'influence qui touchaient des dizaines de millions de personnes. Et donc, il connaît les effets, il connaît même les effets nuancés de ces campagnes, ses livres et ses études sont extrêmement précis sur ce point. Mais franchement, il n'y a qu'en France qu'on rencontre ce type de discours.
The Associated Press put out the following tweet on Twitter. It said, breaking news, 2 explosions at the White House and Barack Obama has been injured. This tweet was retweeted 4,000 times in less than 5 minutes and it went viral thereafter. Now, this tweet wasn't real news put out by the Associated Press. In fact, it was false news or fake news that was propagated by Syrian hackers that had infiltrated the Associated Press Twitter handle. Their purpose was to disrupt society, but they disrupted much more because automated trading algorithms immediately seized on the sentiment on this tweet and began trading based on the potential that the President of the United States had been injured or killed in this explosion. And as they started tweeting, they immediately sent the stock market crashing, wiping out $140 billion in equity value in a single day.
Sina Nahal, 16 janvier 2020, lors d'une conférence TED intitulée How we can protect truth in the age of misinformation.
L'une des raisons pour laquelle on a beaucoup de retard en France sur la compréhension de ces phénomènes par rapport au reste de l'Europe et du monde, c'est que en France, nous avons une recherche qui est cloisonnée par discipline. Alors que partout ailleurs, l'approche est systématiquement pluri- ou transdisciplinaire, parce qu'on a généralement étudié la physique nucléaire avant d'étudier la psychologie, ou on a étudié la psychologie avant de faire de l'informatique. La personne que je n'ai pas nommée tout à l'heure, qui est à mes yeux le plus grand manipulateur de masse de l'histoire, est quelqu'un qui a 3 doctorats. Dans des champs totalement différents, les uns en sciences humaines, les autres dans ce qu'on appelle les sciences dures. Ça n'existe pas en France. Mais vous prenez la discipline la plus fondamentale pour notre sujet, qui est la psychologie sociale, en France, elle est quasi inexistante. Qui accepte volontiers de voir ses enfants faire des études de psychologie, alors qu'ailleurs, dans le monde, les exemples abondent de gens qui ont fait des études de psychologie pour faire autre chose, par exemple Mark Zuckerberg. Les exemples abondent de gens dont les compétences en psychologie sont recrutées au plus haut niveau. Je donne juste un exemple qui, moi, me semble tout à fait emblématique. Le Psychometric Center de Cambridge, donc ce centre de psychologie psychométrique, consistant à élaborer des tests psychométriques et qui est le lieu où a été créée la technique d'analyse prédictive de la personnalité sur Facebook. Donc c'est la technique qui a ensuite été utilisée, dévoyée par Cambridge Analytica et ensuite transférée à la Russie. Ce centre se situe dans l'école de management de Cambridge. Citez-moi une école de commerce ou de management en France qui a un département de psychologie. Ils ont parfois, et c'est heureux, des économistes comportementaux. Mais sur nos sujets, malheureusement, les psychologues sociaux en France se comptent sur les doigts d'une main. Et parmi les doigts de cette main, il y en a beaucoup qui enseignent à l'étranger plutôt qu'en France. Donc on a un retard considérable sur le plan scientifique qui tient à cette structure en tuyau d'orgue qui empêche la compréhension de phénomènes qui, par définition, sont transdisciplinaires. Les gens les plus crédibles sur mes sujets, que j'ai rencontrés jusqu'à présent, les gens avec lesquels, d'ailleurs, je m'entends le mieux sur ces sujets, sont des gens qui ont une formation en physique nucléaire. Parce que la physique des particules est la discipline qui offre la meilleure compréhension de ce que sont les systèmes complexes d'information aujourd'hui à l'ère numérique. Les lois de la physique nous enseignent autre chose de très important, qui est que dans un système chaotique, un tout petit changement de paramètres peut avoir des conséquences absolument considérables. Et quelque part, les réseaux sociaux sont des systèmes chaotiques. Pourquoi ? Parce que les systèmes de recommandation, comme Paul Bouchot le montre remarquablement dans sa thèse, sont bâtis sur une dynamique de fine-tuning telle que de toutes petites variations dans les métriques utilisées par les systèmes algorithmiques pour prédire la viralité d'un contenu peut altérer profondément et à l'échelle les contenus qui sont proposés aux utilisateurs. Et donc vous pouvez manipuler, pirater ces systèmes de recommandation algorithmique une fois que vous avez compris un certain nombre de caractéristiques. Je vous donne deux exemples pour comprendre très clairement. Le premier exemple, c'est le Meaningful Social Interactions de Facebook. Depuis 2018, les emojis ont été affectés d'un facteur d'amplification de 5. De sorte que tout contenu générant de la colère est 5 fois plus viral qu'un contenu générant un like. Sur X Twitter et TikTok, les commentaires sont les plus fortement pondérés, de sorte qu'il vaut mieux obtenir des commentaires qu'un like si on veut peser sur les systèmes de recommandation. Et ces systèmes chaotiques sont précisément ceux qui sont exploités par les acteurs de la menace les plus futés. Parce que les plus futés, en réalité, sont ceux qui ont étudié les lois de la physique, sont ceux qui ont étudié les principes fondamentaux des sciences mathématiques et qui les appliquent à ces systèmes complexes.
Au fond, cet épisode avec David Colomb m'a laissé avec une question que je n'avais pas prévue. La question, ce n'est pas « est-ce que je suis manipulé ?», mais plutôt « notre société est-elle réellement aussi perméable à la manipulation qu'on le redoute ? Et ma façon de penser me permet-elle seulement de le savoir ? C'est là que David Colomb a marqué un point qui me trouble. Il a pointé ce que serait notre angle mort collectif. Selon lui, si nous Français avons tendance à minimiser l'impact des manipulations, c'est que nous restons cloisonnés dans nos disciplines, les sciences humaines d'un côté, les sciences dures de l'autre, en ignorant la réalité de ce que les chercheurs comme Sinanar et l'OMIT observent en croisant la physique et la sociologie, l'économie et la psychologie pour étudier comment l'information se propage et comment elle nous transforme. De plus, une distinction me semble également essentielle pour ne pas tout mettre dans la même description et céder au vertige du doute. Il me semble qu'il faut séparer deux mécaniques bien distinctes. D'un côté, il y a le tactique, c'est-à-dire le faire agir. Ce sont les psy-ops classiques, comme lors de la guerre du Golfe en 91, où des milliers de soldats irakiens se sont rendus à cause d'une campagne de déception massive. Ils ont déposé les armes, ils ont agi, mais ils n'ont pas pour autant changé de système de valeurs ni adhéré. De l'autre côté, il y a le stratégique. C'est le fait de faire croire. Ici, on ne cherche pas un réflexe immédiat, mais à déplacer lentement la fenêtre d'Overton. C'est là que le danger est plus sournois. Rendre mainstream une opinion qui était marginale, en s'appuyant sur nos doutes et nos fractures. Mais là encore, je reste convaincue que la manipulation ne crée rien à partir de rien. Elle réussit quand elle rencontre une attente sociale, un terrain déjà fertile. Comme on l'a vu récemment lors des élections roumaines. Pour moi, les gens ne changent pas d'avis par magie, ils adhèrent à ce qui est déjà proche de leur monde intérieur. Et enfin, j'ai une dernière réticence face à cette idée que nous vivrions une ère de post-vérité inédite. J'ai l'impression qu'on fantasme sur un âge d'or de l'information dont nous serions sortis. Pourtant, si on reprend l'exemple du 19e siècle, à l'époque des romans feuilletons et du Comte de Monte Cristo ou des Mystères de Paris, la presse mélangeait déjà allègrement la fiction et les faits historiques sans jamais prévenir les lecteurs. La confusion des genres n'est pas née avec les réseaux sociaux. Alors, qui a raison ? David Colomb et sa vision d'une ingénierie sociale de pointe ou cette idée que nous faisons que rejouer avec des outils plus rapides de vieux réflexes humains. Je sors de cet entretien sans certitude, ce qui peut être finalement la seule posture honnête. Pas la résignation, pas la paranoïa, juste l'inconfort de quelqu'un qui continue à chercher. Car la propagande, nous dit Colomb, ne s'arrête pas aux frontières de ceux qui la dénoncent, et j'ajouterai, elle ne s'arrête pas non plus aux frontières de ceux qui doutent. Encore merci à David Colomb pour cet entretien. C'était Anaïs Meunier pour le dernier épisode de Signal sur Bruit, en collaboration avec le Cercle Pégase de Soprasteria.